Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bienvenue à vous dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h. Vous êtes sur Europe 1.
C'est pas aux régions, c'est pas aux territoires normalement de fournir les masques, c'est à l'éducation nationale. Et je trouve sidérant que le gouvernement mégote là-dessus.
L'opposition a beau être sidérée, le gouvernement ne cède pas. Les masques obligatoires pour les collégiens et lycéens seront à la charge des parents ou des collectivités territoriales. Si le gouvernement est inflexible sur la gratuité des masques à l'école, il lâche du lest. En revanche, pour les PME, Bruno Le Maire annonce l'allongement de la durée des prêts garantis par l'État. On entendra la réaction du président de la CPME. C'est peut-être la fin d'une histoire d'amour qui dure depuis 20 ans. Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, son club de toujours. Explication à venir de Jean-François Pérez et réactions sidérées d'un supporter. La figure de proue de l'opposition biélorusse proclame qu'une révolution pacifique est en cours dans son pays. Elle a pris la parole aujourd'hui devant le Parlement européen. Nous irons en Lituanie où elle est réfugiée. Quand la violence s'invite dans une querelle de voisinage, un maire de Seine-et-Marne frappé à plusieurs reprises par un habitant. Un temps couvert, voire légèrement pluvieux demain matin dans le sud-ouest. Soleil en revanche sur le bassin méditerranéen. Ne manquez pas les précisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé quasiment stable ce soir. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. Comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview Echo. Emmanuel Duteil reçoit Henri Sédou, le fondateur de Parrot, entreprise française de drones qui pourrait équiper l'armée américaine. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux en kiosque demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Qui va payer les masques que devront obligatoirement porter les élèves dès le collège? Les parents ou l'État? C'est la question sensible à une semaine tout juste de la rentrée scolaire. Et bien à l'issue du Conseil de défense qui s'est tenu ce matin à l'Élysée, le gouvernement a tranché, Jean-Rémy Baudeau, pas de gratuité.
Effectivement, les masques obligatoires à l'école à partir de 11 ans seront bien à la charge des familles. Le Premier ministre Jean Castex a rejoint son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Pas de gratuité, sauf pour les familles les plus précaires. L'argumentaire est simple. Aucun pays au monde n'assure la gratuité des masques. Fin de citation. Le gouvernement reste ainsi sur la ligne tracée par le président lui-même. En juillet, Emmanuel Macron avait indiqué, je cite, que le contribuable n'a pas vocation à payer des masques pour tout le monde, tout le temps. Une décision de l'exécutif alors que la pression est forte. De très nombreuses voix dans l'opposition réclament cette gratuité. Même au sein de la majorité, des députés LREM ont pris position. Mais la thèse n'a pas tenu. Au sommet de l'État, on rappelle que les familles les plus modestes ont déjà reçu des masques par la poste cet été, que l'allocation de rentrée scolaire a été relevée de 100 euros. C'est donc l'argument de la responsabilisation des familles qui a gagné.
Jean-Rémy, ça veut dire que le gouvernement considère que c'est aux collectivités de prendre la main ?
Et c'est la position mise en avant par l'exécutif, une histoire de compétences. On le rappelle, les régions, elles sont en charge des lycées, les départements des collèges. Ce serait donc à eux d'assurer la distribution de masques si nécessaire. Certains ont d'ailleurs déjà annoncé leur volonté de le faire. Le Nord, l'Île-de-France, idem pour certains départements comme la Seine-Saint-Denis. Certains au sein de la majorité crient à la faute politique. Un macroniste le confie. On va revoir des régions fanfaronnées avec des masques comme pendant le confinement. Le gouvernement pourrait ainsi en ressortir fragilisé. Voilà qui agace un conseiller ministériel qui fustige. Au bout de la chaîne, c'est tout de même l'État qui paye.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Les réactions à cette décision ne se sont pas fait attendre. Le gouvernement commet une grave erreur, estime le député France Insoumise, Éric Coquerel.
Théoriquement, l'école est gratuite et obligatoire. Et qui dit gratuit et obligatoire à partir du moment où vous estimez que le masque est gratuit, eh bien chacun doit pouvoir en disposer. C'est une question d'égalité, mais c'est aussi une question sanitaire. Si on demande qu'il y ait du masque à l'école pour les enfants de plus de 11 ans, c'est qu'on estime qu'il y a un risque épidémique important et tout le monde comprendra que le coût du masque est tel que si les enfants le mettent obligatoirement, il en faut au moins deux par jour dans ces cas-là, hein, c'est à peu près les normes si on veut que le masque joue son rôle, eh bien il y a des familles sans beaucoup d'argent qui peuvent être malheureusement tentées à un moment donné d'utiliser le même masque. Donc il doit être gratuit parce qu'on estime que c'est une question de santé publique. Et je trouve sidérant que le gouvernement mégote là-dessus. C'est pas aux régions, c'est pas aux territoires normalement de fournir les masques, c'est à l'éducation nationale.
Le député France Insoumise, Éric Coquerel, qui était l'invité à 18h d'Isabelle Millet et de Julien Bugier. Des règles claires partout et pour tout le monde. C'est la promesse d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé cet après-midi sur Twitter. Les différents protocoles sanitaires à mettre en place pour la rentrée seront à nouveau évoqués demain lors du Conseil des ministres. Nous vous parlions hier soir dans ce journal de la situation sanitaire alarmante dans les Bouches-du-Rhône. Ce qualificatif, c'est le préfet de la région PACA qui l'a employé face à la recrudescence des contaminations contamination au Covid-19. Eh bien, le tour de vis envisagé hier est officiel ce soir. Le port du masque à Marseille devient obligatoire dans l'espace public pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Quant aux bars, restaurants et commerces d'alimentation, ils seront fermés de 23h à 6h et ce, dès demain. 3304 nouveaux cas et 35 clusters supplémentaires ont été recensés sur l'ensemble du territoire ces dernières 24 heures, annonce ce soir de Santé publique France. Nos voisins européens sont eux aussi très préoccupés par l'augmentation des contaminations, notamment l'Espagne, qui a aujourd'hui fait appel à l'armée. 2000 militaires vont être déployés dans les jours qui viennent pour réaliser le traçage des personnes testées positives. La polio, officiellement éradiquée du continent africain, annonce de l'OMS. Plus aucun cas n'a été détecté depuis 4 ans. C'est la fin d'une lutte qui aura duré plus de 3 décennies dans des conditions parfois difficiles, notamment dues notamment aux conflits armés dans certaines régions et à la présence d'organisations terroristes. La crise économique maintenant avec des annonces du gouvernement pour aider les PME à passer le cap. Bruno Le Maire ce matin dans les Échos a dévoilé de nouvelles mesures, notamment l'allongement de la durée des prêts garantis par l'État. Satisfaction de François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fait ce qu'il devait faire auprès des banques. Il a fait une pression amicale, en soulignant d'ailleurs qu'elles avaient fait un excellent travail jusqu'à maintenant pour la distribution des prêts garantis par l'État, ce qui est complètement vrai, hein, on peut tout à fait le reconnaître aussi. Mais maintenant, il était temps que les banques, eh bien, effectivement, nous disent quelles seraient les conditions d'étalement si nous voulons étaler le remboursement de nos prêts garantis par l'État. Nous commençons à voir cette fourchette entre 1 et 3%. Ça veut dire que tout simplement, dans quelques temps, nous pourrons négocier avec notre banquier pour savoir eh bien, à quel taux nous allons rembourser, si nous voulons rembourser immédiatement ou d'une façon étalée notre prêt garanti par l'État. Donc maintenant, à chaque acteur économique que nous sommes, eh bien, d'essayer de tirer le meilleur parti avec ses partenaires financiers, donc nos banques, pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible.
François Asselin, le président de la CPME, joint pour Europe 1 par Carole Ferry.
Europe Soir, Julien Pierce.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h passé de 7 minutes l'heure de se pencher sur ce séisme qui secoue depuis ce soir la planète foot. Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. D'après plusieurs sources au sein du club catalan, le sextuple Ballon d'Or a signifié aujourd'hui par écrit son envie de quitter les Blaugrana, Jean-François Pérez.
Oui, et Julien, face à la tornade médiatique qui s'abattait déjà sur l'Argentine et l'Espagne, le FC Barcelone a été contraint de confirmer la nouvelle. Léo Messi veut donc quitter son club de toujours. Lui qui était arrivé il y a 20 ans en Catalogne, la saison cauchemardesque de Barcelone, battu par le Real en championnat, humilié 8-2 par le Bayern en Ligue des Champions, miné en coulisses par des gardes de pouvoir, a eu raison de sa patience. Écoutez le journaliste et éditorialiste espagnol Juan José Dorado, joint à l'instant par Cyril de la Morinerie.
C'est une décision qui a pris corps après cette défaite face au Bayern de Munich et cette humiliation. C'est juste la goutte qui fait déborder le vase. Hein. La grosse, grosse responsabilité du président Bertomeu qui n'a pas pris peut-être la bonne décision. C'était sa démission. Et ben voilà, Messi, il a pris la sienne. Il s'en va.
Lionel Messi avait 13 ans quand il est arrivé à Barcelone en provenance d'Argentine. Timide, chétif, il a fini par devenir une star planétaire. 6 ballons d'or, vous l'avez dit, un palmarès hallucinant, des statistiques d'extraterrestres. Jamais on ne l'aurait cru capable d'une telle décision. Alors un bras de fer juridique avec son club est engagé. Lui affirme qu'il part libre. Le Barça rétorque qu'il est sous contrat. Le président du club, Josep Bartomeu, pourrait y perdre sa place. Et puis question, s'il va au bout de sa volonté, ce serait la fin d'une époque, bien sûr, mais où peut atterrir Léo Messi à 33 ans, presque en fin de carrière. Toute la presse espagnole envoie déjà Argentin à Manchester City où il retrouverait son entraîneur favori Pep Guardiola. Mais attention à l'Inter Milan et au Paris Saint-Germain qui pourrait être en embuscade. Messi, c'est très cher, 100 millions d'euros par an. Peu de clubs, évidemment, peuvent s'offrir cette folie.
Les précisions signées en direct de Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Alors comment réagissent les supporters Blaugrana? Notre correspondant à Barcelone, Henri de la Guérie, vient de poser la question à Jordi Sant. C'est le responsable des tifos du Barça au Camp Nou.
Je suis sous le choc. Sous le choc parce que je n'aurais jamais pu imaginer que le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur du Barça communique par un simple fax son envie de quitter le club. Avec tout ce qu'il nous a donné, on n'aurait jamais pu ni le concevoir ni l'imaginer. Après, je crois qu'il a parfaitement le droit de quitter le Barça. Mais en même temps, j'espérais une autre fin. Et forcément, le Barça sans Messi, ce ne sera plus la même chose. Et il lui faudra sans doute des années pour s'en remettre. C'est vraiment très fort.
La tristesse d'un supporter barcelonais au micro européen d'Henri de la Guérie. La réponse du Kremlin aux médecins allemands. Ces derniers ont affirmé hier que l'opposant russe Alexei Navalny avait été empoisonné. C'est une piste parmi d'autres, rétorque le porte-parole de Vladimir Poutine, qui critique l'empressement des Allemands sur ce dossier sensible. Ce soir, les États-Unis appellent Moscou à ouvrir immédiatement une enquête. Une révolution pacifique est en cours en Biélorussie. Le cri du cœur de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya aujourd'hui devant le Parlement européen. Le mouvement de protestation contre le président Alexandre Loukachenko est entré dans sa troisième semaine. Jean-Sébastien Solaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Vilnius, en Lituanie, pays dans lequel se sont réfugiés beaucoup d'opposants biélorusses et notamment leur égérie Svetlana Tikhanovskaya, qui est dans une position inconfortable. D'un côté, elle a besoin de l'Europe, mais de l'autre, elle ne peut surtout pas s'attirer les foudres de Moscou.
Oui, c'est une position d'équilibriste qu'elle doit tenir. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle insiste sur une chose. Elle ne veut pas que son pays devienne un enjeu géopolitique, le théâtre d'un bras de fer entre Russie et Union européenne, tout le contraire de l'Ukraine en quelque sorte. Sentiment que résume bien Katerina, une exilée biélorusse.
Nous voulons seulement être souverains. Nous ne voulons pas plus du soutien de l'Europe que celui de la Russie. Nous voulons être en dehors de tout ça. Agir par nous-mêmes, prouver que nous avons notre propre nation et par la suite nous pourrons agir sur la scène internationale.
Svetlana Tikhanovskaya appelle quand même l'Europe à l'aide sur un terrain bien précis. Elle en a fait personnellement la demande hier à l'eurodéputé français Stéphane Séjourné.
Elle demande qu'on mette de la pression politique sur le pouvoir en place par rapport aux prisonniers politiques, mais pas d'ingérence politique, et ça c'est la limite, et elle l'a rappelé à plusieurs reprises. C'est pas aux États-Unis, c'est pas à l'Union européenne, et c'est pas à la Russie de décider qui va être président à la place du pouvoir en place, donc c'est ça, pas d'ingérence.
Elle fait l'exact contraire de ce que tente Alexander Loukachenko, lui qui s'efforce de discréditer la contestation en présentant le mouvement comme un complot occidental destiné à ruiner les relations avec Moscou.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Lituanie. On a beaucoup parlé pendant les municipales du mal-être des maires. Surmenage, manque de moyens, mais aussi agression. Elles se multiplient. On en recense 233 depuis le 1er janvier. C'est 14% de plus que l'année dernière. Dernière en date. Hier soir, le maire d'une petite commune de Seine-et-Marne a violemment été pris à partie, puis frappé alors qu'il rentrait chez lui. En cause, Justin Morin, un banal problème de stationnement.
Oui, il ne supportait plus que ses voisins se garent devant chez lui sur, je cite, « son trottoir ». Le maire Laurent Simon l'ayant autorisé, pour l'agresseur, c'est bien lui le responsable de son malheur. Donc hier soir, il suit l'élu en voiture alors qu'il rentre chez lui, le double et le force à s'arrêter sur la rue principale. Il lui assène alors une série de coups de poing, le maire en ressort avec une côte cassée et une arcade sourcilière bien abîmée. Ce conflit de voisinage n'est pourtant pas récent, mais ce qui a accéléré les choses, c'est que l'habitant mécontent a récemment fait poser des rochers devant chez lui pour empêcher quiconque de se garer. Le maire sans étiquette a alors porté plainte pour les faire enlever.
Évidemment, il a créé un tel climat de tension dans son secteur, moi je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, qu'il a retrouvé sa voiture incendiée dans son jardin. Et tout est venu de là. Moi, c'est ma 13e année de mandat. Je ne pensais pas que ça arriverait. Ça me choque même parce qu'on est à plus de 200 agressions depuis le mois de janvier sur des maires en France. Il y a un moment, il va falloir que les réponses soient fermes. Sinon, ça s'amplifiera.
Le maire Laurent Simon a porté plainte. Alors, faut-il y voir un lien? Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il s'emparait du sujet des agressions d'élus. Une réunion interministérielle doit se tenir dans une semaine à Matignon.
Justin Morin. Les avocats de Michel Fourniret appellent à la prudence face aux accusations de son ex-épouse. Monique Olivier a assuré la semaine dernière que son ancienne Marie avait enlevé, violé, puis tué la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003. Michel Fourniret a été entendu aujourd'hui par la juge d'instruction chargée de l'enquête. Il le sera à nouveau demain. Gérald Darmanin défend la liberté des femmes de bronzer seins nus. Jeudi dernier, des gendarmes de Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales avaient demandé à trois femmes pratiquant le topless en toute légalité de se rhabiller. Une erreur, reconnaît dans un tweet aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. La liberté, écrit-il, est un bien précieux. C'est un constat qui ne manque pas de piquant. Cet été, les guêpes ont pris leurs aises. Des escadrons jaunes et noirs virevoltent chez nos boulangers ou dans nos jardins, vous l'avez peut-être remarqué. Capucine Rouault, c'est une vue de l'esprit où il y a vraiment plus de guêpes que les autres années?
Eh bien, manifestement, il y en a plus. Il suffit d'interroger les désinsectiseurs, ceux qui interviennent quand les gens sont dérangés ou menacés par les guêpes. On a eu des témoignages un peu dans toute la France et tous le disent. Ils ont multiplié les interventions, à l'image de Sébastien Dacosta, dont la société couvre toute la région parisienne.
On est débordé tous les jours. Le téléphone, il n'arrête pas. C'est voilà, deux, trois fois plus que l'année dernière, en l'occurrence. D'habitude, je fais toutes les interventions. Cette année, je suis obligé d'en refuser et de réduire mon secteur d'intervention parce que qu'il y a une demande plus grosse que l'année précédente.
Alors, pour expliquer ce phénomène, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, l'hiver, les rennes, c'est-à-dire les guêpes qui fondent les colonies, sont tuées par le froid et plus précisément par le gel. Donc, si les guêpes sont plus nombreuses aujourd'hui, selon Quentin Rome du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est tout simplement à cause des températures plus élevées.
Du fait d'un hiver qui a été particulièrement doux, comme on n'a eu aucun coup de gel, mais ça veut dire qu'en fait, on a une survie qui a été augmentée de ces rennes-là, donc on a beaucoup plus de colonies qui ont survécu. Donc on est sur une année où il y a beaucoup plus de guêpes que d'habitude.
Selon lui, selon les remontées qu'il a du terrain depuis plusieurs semaines, les guêpes auraient été 5 fois plus nombreuses cet été que l'année dernière.
Capucine Rouault, on passe à la météo de demain.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Anissa Haddadi, le temps redevient sec demain.
Oui, en effet, Julien, nous aurons beaucoup moins d'averses demain sur le pays. Mais attention, le ciel reste couvert sur l'ensemble de la France. Du Pays Basque au Languedoc, là, nous aurons même des nuages qui seront plus nombreux, plus épais, avec en début de journée quelques petites gouttes possibles. Au nord, sur les côtes de la Manche, de la mer du Nord, sur les Ardennes, jusqu'en Bourgogne, même le vent d'ouest se lève, s'infiltre dans les terres et il souffle toujours en rafale jusqu'à 80 km/h. Sur le golfe du Lion et le Cap Corse, là aussi, le vent se lève, c'est le vent d'ouest qui souffle jusqu'à 60 km/h, notamment en Corse. Dans l'après-midi, le ciel va s'éclaircir légèrement. Vous allez voir les nuages se dissiper. Mais globalement, le ciel reste assez voilé. Rassurez-vous, un voile nuageux qui laissera de temps en temps passer de belles éclaircies. Alors les températures, elles amorcent leur baisse dès demain. Ce week-end, vraiment, on va perdre une dizaine de degrés. Demain, ça reste correct et de saison avec 14 à 18 degrés en début de journée jusqu'à 23 au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, c'est en Bretagne qu'il fera le plus frais avec 20 degrés à Brest, 22 à Quimper. Nous aurons 24 à 31 degrés sur l'ensemble du pays, 25 à Paris et Nancy, 27 à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 28 pour Nice et Bordeaux, 30 degrés à Chambéry demain après-midi et jusqu'à 35 degrés dans l'extrême sud, 34 à Manosque et 35 pour Avignon.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Actu. Ce soir, Emmanuel Dutheil reçoit Henri Sédou, le fondateur de Parrot, entreprise française de drones qui va équiper l'armée américaine. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Alors, séance mitigée à Wall Street, même si le Nasdaq s'offre un nouveau record historique.
Et oui, un nouveau record pour le Nasdaq qui termine à 11 466 points en hausse de 0,76%. Le Dow Jones, qui a bien monté récemment grâce aux espoirs de vaccins contre le Covid, marque une pause. Il perd 0,21%, 28 248 points. Le Dow Jones qui se dépoussière avec l'arrivée de trois valeurs, Amgen, Honeywell et Salesforce. Elles vont intégrer le prestigieux indice le 31 août. Elles vont notamment remplacer le géant pétrolier ExxonMobil. C'est un coup dur pour Exxon et le titre lâche 3%. Si le Dow Jones bouge, c'est à cause d'Apple qui va diviser par 4 la valeur de son action dans quelques jours. Division parce que l'action, elle coûte très cher, 499 $ ce soir. L'idée, c'est donc de la rendre plus accessible aux investisseurs. Un mot aussi d'American Airlines qui perd 2,3%. La compagnie américaine pourrait supprimer 19 000 postes sans aide supplémentaire du gouvernement.
Pas de changement en revanche à Paris pour le CAC 40 qui termine pratiquement stable.
Ouais, après un bon départ, le marché parisien a été freiné par Wall Street. Hausse symbolique donc pour le CAC 40 qui gagne un tout petit 0,01% et termine à 5008 points. Accor grimpe de 3,8% et Air France KLM de 1,5%. Le secteur du tourisme et du transport a été porté une nouvelle fois par les espoirs de vaccins contre le Covid. On a suivi aussi Schneider Electric qui va racheter via sa filiale Aveva l'américain Osisoft pour 5 milliards de dollars. Osisoft, c'est un fabricant de logiciels industriels et l'objectif, c'est de renforcer dans le secteur du cloud et l'action. Schneider avance de 0,5%.
LVMH et le joaillier Tiffany reportent de quelques mois leur mariage.
Oui, le géant du luxe et Tiffany vont se donner 3 mois supplémentaires pour mener à bien leur projet de rapprochement. Il est maintenant prévu pour fin novembre. Montant de la transaction, je vous le rappelle, un peu plus de 16 milliards de dollars. LVMH gagne 0,9%. Séance mitigée pour les marchés européens. Londres perd plus de 1%. Francfort et Madrid sont stables. Amsterdam perd 0,4%. Milan moins 0,2%. Et le CAC 40 aussi. Lui, il termine à l'équilibre. 5008 points ce soir.
Toutes les infos de la bourse en France, mais aussi sur les autres places boursières mondiales, signé Claire Lemaître de boursier.com, que l'on retrouve demain soir, même heure, même antenne.
À demain.
On passe à l'interview éco, menée ce soir par Emmanuel Duteil. Vous recevez Emmanuel Henri Sédoux, le fondateur de Parrot.
Bonsoir Henri Sédoux.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron et le fondateur de Parrot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous êtes un des grands noms des drones. C'est vous qui les fabriquez. Et si on a eu envie de vous appeler ce soir, c'est que vous venez de signer un contrat extrêmement important avec le gouvernement américain, puisque vous allez fournir à l'armée américaine des drones d'intervention. Comment on gagne un tel contrat ?
Alors, c'est des drones pour faire de l'observation, c'est-à-dire... C'est des petits drones volants qui pèsent moins de 500 grammes et que les militaires, les pompiers, les policiers emmènent avec eux et qu'ils font voler pour voir de loin, voir de nuit, faire de l'observation.
Mais comment on gagne un tel contrat ?
Alors, le business du drone, il s'est créé il y a environ 10 ans à partir d'une technologie au fond qui est celle de l'iPhone. Les puces extrêmement puissantes, mais aussi portables, qui gèrent une caméra, un GPS. Et donc, le drone, il vient de la technologie consumer électronique. Et donc, c'est là où Parrot, on a été les premiers. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce domaine-là, seuls des Chinois et Parrot avons fait le travail de recherche et développement et d'inventer ces drones-là. Donc, les Américains se sont trouvés démunis en matière de petits drones high-tech fabriqués avec la même technologie que l'iPhone.
Et donc, mais je crois que vous aviez un concurrent chinois quand même qui était capable de faire à peu près la même chose que vous.
Exactement. Donc, les Américains ont lancé un concours. Ils ont lancé un concours il y a un peu plus d'un an avec des fournisseurs américains et nous comme Français. Et ce concours, c'était pour leur faire le drone dont ils avaient besoin. Et à ce concours, il y a eu 2 gagnants. Et voilà où on en est. Donc, on livre les premiers drones pour l'armée américaine dans les semaines qui viennent.
Alors, le deal aussi, ça faisait partie de l'appel d'offres. Il faut fabriquer aux États-Unis.
Il faut fabriquer aux États-Unis. Et il faut que, du point de vue sécurité, cybersécurité, le drone soit... impeccable et suivre les recommandations de l'armée américaine. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Là, le fait d'être français, j'imagine que ça a joué face notamment à un concurrent chinois. On entend beaucoup parler de la guerre avec, par exemple, le fabricant de téléphones portables Huawei. On a aussi entendu parler de la guerre avec l'application pour les jeunes TikTok dont les Américains ne veulent plus entendre parler parce qu'ils ont peur d'être écoutés, surveillés, etc. etc. Là, le fait
et
de
en
dire...
matière de drone, c'est la même chose. Des chercheurs en cybersécurité ont montré qu'il y avait des failles de sécurité très importantes dans les drones chinois et qu'ils ont des possibilités de contrôler votre drone. Et ça, c'est quelque chose que les Américains ne veulent pas, mais que tous les utilisateurs, auxquels tous les utilisateurs doivent être conscients, y compris les utilisateurs européens qui sont maintenant... Parce qu'en fait, cette histoire de drone, ça a démarré un peu comme un jeu vidéo. Ça a démarré avec la technique. On a fait quelque chose de tout à fait inattendu. Et nous, Parrot, on en a vendu des millions. Mais en fait, ce qui s'est passé, comme le jeu vidéo aussi d'ailleurs, on a débouché sur un résultat technologique beaucoup plus intéressant que simplement un amusement. Et donc, on fait maintenant chez Parrot uniquement des drones professionnels. Des drones qui sont utilisés pour l'armée américaine, mais qui sont aussi utilisés par les pompiers et qui sont utilisés dans énormément de tâches civiles pour faire de la cartographie, pour faire de la surveillance d'infrastructures, pour faire de la surveillance d'agriculture, de champs, voir comment se développe l'agriculture, voir s'il y a besoin de mettre plus d'engrais. Donc les drones ont une grande utilité et nous chez Parrot, on pense qu'ils vont avoir de plus en plus d'utilité dans énormément d'applications technologiques en outdoor, à l'extérieur. Si vous avez besoin de prendre des données, de voir ce qui se passe.
Et c'est un marché aujourd'hui beaucoup plus rentable, hein, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Parrot, vous étiez effectivement le plus gros vendeur de drones grand public en France. En 2017, vous avez dû changer complètement de braquet parce que, comment on pourrait dire, la mode était passée, il y avait trop d'acteurs, c'était compliqué pour vous de continuer à être concurrentiel.
Mais le vrai truc, c'est ça, c'est la mode était passée. La technologie, c'est un métier où l'innovation, elle est portée par l'inattendu. Et puis, quand la mode est passée, eh bien, il faut trouver les utilités de la technologie. Il y a eu des modes de la caméra GoPro, il y a eu la mode du BlackBerry. Et puis tout ça, ça fait une évolution très rapide des produits. Et en ce qui concerne les drones, l'évolution... c'est les usages professionnels.
Tout autre sujet, pendant le confinement, vous avez participé à un projet de conglomérat de respirateurs artificiels, puisque dans un drone, il y a des moteurs et vous avez fourni 500 moteurs. On nous en avait promis 5000. Ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, le professeur Juvin disait « On a beaucoup parlé des respirateurs, mais on ne les voit pas vraiment arriver encore. » Vous, les vôtres, un, ils fonctionnent et deux, ils ont été livrés ?
Alors, on a fait des respirateurs en urgence. En fait, au début de la pandémie, il y avait une crainte énorme, énorme de manquer de respirateurs. Nous, on faisait ça avec le CEA et le CHU de Nantes. Et finalement, il n'y a pas eu de déficit de respirateurs. Tous les respirateurs qui existaient dans les services hospitaliers ont été utilisés, mais on n'a pas manqué énormément de respirateurs.
Ce que vous voulez dire, c'est ce que vous avez produit ne servait à rien finalement ?
On ne savait pas, si vous voulez.
Donc, mais ils sont où aujourd'hui ces respirateurs du coup que vous avez produits ? Ils ont été livrés quand même ?
Eh bien, les premiers ont été fabriqués et le projet s'est arrêté. Mais ça montre quand même, avec la high-tech, qu'on peut faire des produits et on peut réaliser des solutions très rapidement. Ça a été, si vous voulez, un bon exemple pour montrer le dynamisme de cette industrie.
Eh bien, merci beaucoup, Henri Sédou, le patron et fondateur de Parrot, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse, les journaux qui seront dans vos kiosques demain matin. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h28, ce sont les unes de la presse. Voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Face au Covid, les entreprises appellent à l'optimisme, titre Le Figaro. Le MEDEF ouvre demain son université d'été dans un contexte très dégradé. Mais son président, Geoffroy de Roux-de-Bézieux, affiche sa confiance en l'avenir. Sondage à l'appui, il y a de la lumière au bout du tunnel. Plus nous agissons collectivement, plus nous l'atteindrons vite, assure le président du patronat français. Ouest France consacre sa une au retour en classe des élèves mardi prochain. Covid, vos questions sur la rentrée. À moins d'une semaine, professeurs, directeurs et élus se plaignent d'être laissés dans l'ignorance, écrit le quotidien de l'Ouest. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses questions fleurissent à propos du protocole à mettre en œuvre pour accueillir les élèves. Ouest France propose un tour d'horizon des zones d'ombre. Avec Zoé, Renault double Tesla en Europe, titre en une les Échos. 48 000 ventes sur les 7 premiers mois de 2020. La citadine électrique de la marque aux losanges explose les compteurs et se propulse même sur la première place du podium des voitures propres en Europe devant la Model 3 de Tesla. La Zoé profite à plein des bonus à l'achat mis en place depuis la crise, mais Renault bénéficie également de son expérience dans le véhicule électrique et ça rassure les consommateurs, écrit le quotidien économique. Et puis à l'inverse de l'américain Tesla, le constructeur américain profite également de son important réseau de concessions à même de répondre à ce boom de la demande. Autre boom, cette fois à la une du Maine Libre, celui du bricolage, du jamais vu, écrit le quotidien sartois. Depuis le confinement, les ventes enregistrées par les commerces spécialisés sont en forte hausse. On vous en a largement parlé ici même sur cette antenne. Mais la nouveauté, c'est que pour faire face à cette demande, les enseignes doivent adapter leurs organisations. Enfin, un anniversaire, toujours à la une du Maine Libre, les 40 ans du groupe Indochine.
Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu, quelle est la...
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Est-ce que vous aimez Indochine?
Bah écoutez, j'ai découvert Indochine, j'avais 16 ans. Donc vous imaginez le choc ce soir lorsque j'entends que ça fait 40 ans, vous m'avez dit?
40 ans.
40 ans.
Ouais, 40 ans demain.
Que le temps passe vite, Julien, que le temps passe vite. Mais bon, c'est toujours un des groupes majeurs français. Hein,
Ils sont toujours à l'affiche de nombreux concerts et festivals. Alors pas maintenant, pas en ce moment évidemment, mais leurs tournées sont toujours complets.
Et puis ils ont été très présents sur Europe 1 parce que je me rappelle qu'Émilie... Émilie avait fait un concert ici dans le grand studio d'Europe 1, le studio Belmar. Non, écoutez, ça fait du bien, surtout d'entendre ce titre-là qui sont les débuts, vraiment.
Voilà de quoi lancer parfaitement votre libre antenne, Olivier. Libre antenne qui est joignable à tout moment par nos auditeurs au 39-21.
Exactement. Et je vous dis tout à l'heure, à 23h, pour le flash.
À tout à l'heure.